tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Élève du collège Jean Jaurès, l'association Wakadi nous a lancé un défi, un truc de fou.
Réaliser en 2 jours à 30 élèves une émission radio en direct du collège.
Sujet du jour, la guerre.
Guerre historique.
Violence en général.
Et nos propres guerres. Bonne émission.
Bonne émission.
Salut chers auditeurs, salut cher public, salut Zoé.
Salut Calixte. Au programme de notre émission, on reviendra sur les moments forts de ce dernier siècle. Nous accueillerons notamment M. Balm, résistant, et M. Moisé, historien.
Nous vous parlerons aussi des conflits que nous connaissons bien, ceux qui sont personnels, ceux qui sont virtuels ou réels.
Puisque notre lycée porte le nom de Jean Jaurès, on ne peut pas ne pas vous en parler. Gauthier, c'est à toi.
Jean Jaurès est né à Castres le 31 septembre 1859. Il a été nommé professeur de philosophie au lycée d'Albi en 1881. Il était le leader socialiste français. Jean Jaurès s'est illustré par son pacifisme, mais il n'est pas antimilitariste. Pour éviter ce qui sera la Première Guerre mondiale, Jean Jaurès appelle à une grève générale. Mais si la grève n'est pas suivie, alors place à l'armée. Le 25 juillet 1914, l'ultime discours de Jean Jaurès est prononcé dans la banlieue de Lyon. Il explique la rupture diplomatique entre l'Autriche et la Serbie et prévoit un conflit mondial. Ses idées ne plaisaient pas à tout le monde. Il a été assassiné le 31 juillet 1914 par Raoul Villain au Café du Croissant, rue Montmartre, à Paris. L'assassin s'était procuré un revolver et prépare son plan. Il semblait le suivre depuis quelque temps et a remarqué que le leader socialiste déjeunait au Café du Croissant. Ce soir-là, vers 21h, Raoul Villain, depuis la fenêtre donnant sur la rue, fait feu et abat Jaurès d'une balle dans en pleine tête. Raoul Villain a été emprisonné durant toute la guerre. Après 56 mois de détention, Raoul Villain a été acquitté le 29 mars 1919, même en ayant avoué l'assassinat de Jean Jaurès. Dans une lettre adressée à son frère depuis la prison de la Santé le 10 août 1914, il affirme « J'ai abattu le porte-drapeau, le grand traître de l'époque de la loi des trois âmes, la grande gueule qui couvrait tous les appels de l'Alsace-Lorraine. Je l'ai puni, et c'était le symbole de l'ère nouvelle, et pour les Français et pour l'étranger. » Raoul Villain a échappé à la condamnation en 1919. Par contre, il a eu moins de chance pendant la guerre. Il s'est rallié aux franquistes et meurt fusillé à Ibiza en 1936.
Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? 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 Par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Au centre de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir aux champs d'horreur leurs 20 ans qu'ils n'avaient plus naître. Et ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui notre bon maître, couvert de prêtres, oui notre monsieur. Demandez-vous belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? 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 Pourquoi ont-ils tué Jaurès ?
Allez, on va se changer les idées en récré.
Qu'est-ce que tes grands-parents t'ont raconté de la guerre ?
Mon grand-père m'a raconté que c'était pas bien du tout. c'est vrai, c'était pas bien quoi, il voyait que des morts et tout ça.
Mais que c'était violent. et qu'il y avait beaucoup de morts.
Non, rien du tout.
Rien parce que j'ai plus de grands-parents. Il me reste qu'une mamie et je lui parle pas trop.
Qu'est-ce que tes grands-parents t'ont raconté de la guerre ?
Oh, des horreurs, des horreurs. Ouais. Les Allemands séparaient les mamans des enfants à coups de crosse. Voilà, c'était horrible, quoi. C'était horrible, il y avait des cris horribles.
Oh, alors là, mes grands-parents, ils m'en ont raconté de la guerre énormément, parce que c'est une situation assez particulière. J'avais un grand-père russe donc, qui a émigré en France au moment de la Première Guerre, vu que c'était un russe blanc et qu'il n'était plus accepté dans son pays. Après, on m'a raconté l'exode, puisque j'habitais dans le nord de la France avec mes grands-parents, donc ils ont dû évacuer jusqu'en Charente. Je peux en faire très très long là-dessus. C'est surtout ça. Alors ce que j'ai retenu, c'est effectivement de devoir quitter sa maison, de devoir tout quitter, tout laisser et de s'en aller sur les chemins, l'exode comme ils l'ont connu, coucher à même le sol, ne pas manger, etc., etc.
Faire la queue pour avoir à manger, avoir un ticket pour une famille de 7, rationner, partager, l'interminable queue sans savoir s'ils allaient avoir de quoi manger pour tout le monde.
Il y avait du rationnement au niveau de la nourriture, tout ça, mais étant donné qu'ils sont des personnes de campagne, ils n'ont pas vécu la guerre de plein fouet comme certains.
Mais mon grand-père était sapeur-pompier et il déblayait les corps pendant la guerre. On n'en a pas trop parlé, c'est des choses qu'ils essayent d'oublier.
Voilà, ben mon grand-père était résistant à l'âge de 17 ans. Donc lui, c'est le seul qui a pu rentrer dans la prison et ressortir avec des prisonniers de guerre. Voilà ce qu'il m'a raconté un peu de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale.
Mon pépé, il est allé faire la guerre et du coup, j'ai su quelques trucs sur l'Allemagne et tout, mais rien de spécial. Mon pépé, il est mort. Et ma mamie, elle m'a raconté qu'il était allé à un camp de concentration, tout ça. Et après, je sais plus trop. En questionnant les copains, on s'est rendu compte que peu d'entre nous en apprennent sur la guerre avec leurs grands-parents. Par contre, Maxime et Manon ont des choses à raconter.
Des fois, quand on est en famille, mes parents me racontent des histoires que mon grand-père a vécues. Il a été prisonnier pendant 5 ans, dans une famille allemande, sans nouvelles de sa famille ni de ses amis. Et là, j'imagine, il était dans un champ, en train de travailler et de penser à sa vie, en France, avec sa famille. Et je ressens le manque qu'il devait ressentir. C'est horrible, mais c'est comme ça. Un jour, des hommes sont venus le chercher et l'ont mis dans un train, direction l'Allemagne. J'imagine l'odeur de la charogne. Heureusement, j'ai compris qu'il avait atterri dans une famille gentille. Et il a travaillé. Travailler jusqu'à ce que cette fichue guerre soit terminée et qu'il puisse rentrer. J'imagine aussi son retour après la guerre. Personne n'était averti. Il devait être surpris, heureux évidemment qu'il soit revenu. Moi, mon grand-père, je ne l'ai pas connu, mais je suis fière d'avoir écouté son histoire, de savoir qu'il a fait la Seconde Guerre. Quand je pense à lui, ça me fait toujours un petit quelque chose à l'intérieur de mon corps. Une petite boule, sûrement un sentiment de manque. Ça me fait toujours bizarre d'en parler, mais je suis contente de vous raconter son histoire à mon tour.
De cueillir les tomates.
Allô la résistance ? Restez sur Radio Saint-Afrique en permanence.
Paris, Radio Paris est allemand.
J'ai un grand-oncle qui s'appelle Pascal. Il était soldat et a été déporté pendant l'occupation allemande, avec ce qui restait de son régiment. Deux jours plus tôt, son frère, lui, avait été tué d'une balle dans la tête. Pascal a tout d'abord été envoyé dans un camp de travaux forcés. C'était l'hiver, et beaucoup de soldats, malades, allaient à l'infirmerie, mais n'en revenaient pas. À force, les déportés comprirent ce qui s'y passait. Malgré tout, ils continuaient d'y aller. Ils n'étaient pas malades, mais ils étaient désespérés. Pascal parlait allemand. Il s'était lié d'amitié avec plusieurs soldats allemands. Ils n'étaient pas si différents. Les Allemands aussi en avaient marre de la guerre. Mais ils étaient obligés d'obéir. Un jour, Pascal, fatigué, alla à l'infirmerie. Lorsqu'ils le virent dans la file, les soldats allemands parvinrent à le décourager de s'y rendre et l'envoyèrent dans un camp de déportés moins dur. Là-bas, les déportés devaient éplucher des patates. Il m'a dit que beaucoup de détenus faisaient discrètement pipi dans l'eau qui servait à laver les patates, car ils n'étaient même pas libres de faire leurs besoins quand ils le voulaient. Puis Pascal tomba malade. Les Allemands l'envoyèrent en France, à la montagne, car son état était grave. Pascal guérit un an après que l'Empire allemand ait capitulé. Il épousa la jeune femme qui s'était occupée de lui pendant la guerre. Quand j'étais plus jeune, mon grand-oncle me racontait toutes ces histoires sur la vie au camp. Je me rappelle de cette anecdote qui, petit, me faisait rire. Un jour où Pascal devait éplucher des patates et qu'il avait fait pipi dans la bassine d'eau qui servait à les laver, un soldat allemand, passant par là, goûta une patate lavée avec l'eau souillée. Je rigolais. Je ne comprenais pas que ce qu'il avait vécu était si grave. En grandissant, et en entendant parler de cette guerre, j'en ai pris un peu conscience. Pourtant, Pascal en parlait toujours en plaisantant. Je crois que c'était trop dur pour lui d'en parler autrement.
Monsieur Balm va nous parler de sa propre expérience sur la résistance et sur ce qu'il a vécu pendant la guerre.
Nous sommes là pour vous poser quelques questions, pour avoir votre ressenti, votre version personnelle de la guerre.
Est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Alors, Henri Balm, actuellement j'ai 90 ans. Je suis grand invalide, blessé et que je veux dire... J'ai eu 4 fractures à cette jambe, j'ai eu fracture de bassin, déplacement de la colonne vertébrale. Et je suis actuellement, j'ai besoin de retraite.
Avez-vous participé à la guerre ? Quel poste avez-vous ?
Suis rentré dans la résistance. Je suis rentré en janvier 1943. J'ai commencé, quand je suis passé au maquis, 18h et demi, 19 ans. Mon père, quand je suis rentré à la résistance, m'a dit, petit, tu fais ce que tu veux. Voilà ce qu'il m'a dit. Ça, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui qu'il me le disait. Il m'a plus qu'encouragé. Il m'a dit, tu es parti, tu pars. Mais vous voyez, je le dis franchement, la guerre pour moi, c'est fait davantage dans le commando que la guerre autrement. La tranchée, tout ce que j'en suis, régiment et tout, c'est pas le même esprit. C'était un esprit de camaraderie qu'on avait. Et on vivait les uns pour les autres. Voyez, c'est ça qu'on avait.
Comment viviez-vous au quotidien pendant la guerre ?
Vous savez, pour nous, on était d'abord gonflés, à bloc. Courage à monter. Ce qui a été dur à voir, c'est les premiers qui ont été tués à ce moment-là. quand vous aviez un bon copain le soir, hein, quand vous rentrez à la poule, quand vous rentrez à la chambre, hein, quand vous rentrez pour coucher, hein, dans une grange, n'importe où, hein, qu'il y a celui-là qui manquait, qu'il y en a un qui se débrouillait à ramasser toutes les affaires qu'il avait à tout pour envoyer à sa famille, hein, et bien c'est assez pénible. Hein. Et vous voyez, ce que je crois aujourd'hui, hein, malgré qu'on parle des jeunes et tout ce qui en suit, mais il se trouverait dans le cas où se trouvait qu'on a été les autres, hein, il y en a beaucoup qui feraient la même chose. Qui feraient la même chose, je crois.
Avez-vous eu envie d'abandonner ?
Ah non, jamais. Jamais j'ai abandonné. Premièrement, je vous dis, on avait le feu sacré à nous-mêmes, hein. Si on se battait, c'était contre les Allemands, parce qu'ils nous ont fait voir. Hein.
Craignez-vous une autre guerre mondiale ?
Ça m'embêterait. Parce que si on ouvre la guerre, c'est, on perd des copains, on perd des amis, et vous savez, c'est pas marrant la guerre. Hein. Il y a un qui disait, les jeunes n'auraient pas l'esprit que vous aviez à ce moment-là. Hein. Mais ils vivraient les conditions que nous avons vécu à ce moment-là, en 40, 41, 43, 44, et bien je crois qu'il serait autant conflit que ce qu'on était.
Avez-vous quelque chose d'autre à nous faire partager ?
On estime qu'on a fait notre devoir, hein, de français, hein, et je suis content de ma vie, de ce qui s'est passé.
Bah, merci de nous avoir expliqué tout ça.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants, dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
Monsieur Moisé est historien. Il va répondre aux questions d'Emma et d'Héloïse.
Bonjour, nous sommes en compagnie de Monsieur Noisé. Nous sommes en compagnie de Henri Noisé. Professeur d'histoire et historien spécialiste des deux dernières guerres.
Bonjour Monsieur Moisé. Dans le cadre de notre émission consacrée à la guerre, nous souhaiterions avoir votre avis d'expert sur le sujet. Que pensez-vous de la guerre ?
Bonjour, tout d'abord. Mais derrière ce mot, la guerre, se cache sans doute ce qu'il y a de plus affreux pour les hommes. Parce qu'on meurt à la guerre, mais on peut mourir aussi dans une épidémie ou dans un accident. Mais la guerre génère, au-delà de la mort de millions de gens, puisqu'on parle des deux dernières guerres, beaucoup de haine et sans doute parfois des systèmes de barbarie. Et ce qu'il y a de plus détestable dans la guerre, c'est que on va inventer pour gagner cette guerre des industries, on va produire des armes. Alors que parfois, en période de paix, on manque d'argent pour engager les réformes et les progrès nécessaires. Donc pour moi, la guerre est la pire des choses, même si c'est un moyen, hélas, parfois de régler des problèmes politiques.
Pourquoi l'humain fait la guerre ? L'a-t-il toujours fait ?
Pourquoi les hommes font-ils la guerre ? Nous sommes issus, par évolution naturelle, du monde des bêtes, des animaux. Et je crois qu'il y a un rapport, évidemment, entre les êtres, qui est un rapport de force, d'abord dans la nature, et que les hommes, progressivement, ont intégré. Il est clair que les premiers homo sapiens se sont livrés à une concurrence. La guerre, c'est d'abord une concurrence pour la nourriture. Au fur et à mesure que l'intelligence humaine a progressé, que les sociétés se sont créées, la raison n'a pas toujours empêché le conflit. Il y a eu des rivalités religieuses, il y a des rivalités politiques, des rivalités de voisinage, des conflits au sein des groupes humains, ou comme on le voit maintenant dans les sociétés. Donc la guerre fait partie, sans doute, de l'humanité, mais ce n'est pas une raison pour l'accepter. On peut, face à cet aspect constant, s'indigner et faire en sorte que, par des réformes, par la justice, par l'humanité, eh bien, on retarde au maximum les solutions militaires.
Qu'est-ce la résistance ?
Alors, la résistance, c'est le fait de s'opposer. Alors, dans votre question, vous faites sans doute allusion à la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale à l'occupant allemand. Bon, la résistance, c'est d'abord un refus. C'est d'abord ça. Ce ne sont pas les armes. C'est dire non à ce que l'on juge inacceptable. Et pour les démocrates français, pour les humanistes français, pour les hommes de gauche français, eh bien, la résistance fut d'abord dire non à l'idéologie nazie, mais en même temps à ceux qui en France soutenaient les nazis, et notamment les collaborateurs, les partisans de Pétain et de Laval. C'est la résistance politique. Il y a eu des gens qui ont fait de la résistance que l'on appelle humanitaire. Ça peut surprendre, sans les armes, ils se sont opposés, par exemple, aux rafles de juifs. Ils ont caché et aidé des juifs. C'est une forme de résistance. Et puis, il y a ceux qui, à l'action politique et humanitaire, ont ajouté la résistance militaire. Il était certain que pour arrêter l'occupation, il fallait combattre l'occupant. Et c'est la résistance armée, les attentats, le sabotage, la guérilla qui a donné cet autre aspect que l'on appelle les maquis et qui ont aidé évidemment l'autre aspect de la guerre faite par les alliés. Donc vous voyez, derrière le mot résistance, il peut y avoir différents aspects à définir.
Pour quelles raisons vous êtes-vous particulièrement intéressé aux deux dernières guerres ?
Bon, d'abord, sans doute en tant que professeur, mais j'aurais pu m'intéresser évidemment au XVIIIe siècle ou à la Renaissance. Donc c'est vrai que mes origines familiales semblent avoir été un élément. Ma famille est originaire de Verdun. Et ma grand-mère et mon père, qui étaient un des enfants, furent évacués en août 14. Verdun, ça vous rappelle quand même un lieu de mémoire extrêmement fort. Et le fait d'être de la Meuse, d'une famille meusienne, m'a toujours conditionné dans l'intérêt que je pouvais porter à la Première Guerre mondiale. Pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est différent, c'est lié, je dirais, à ma découverte en tant qu'étudiant à la faculté de cette période, parce qu'il y avait dans les programmes évidemment des sujets qui étaient traités et des professeurs qui nous ont amenés à nous intéresser en tant qu'étudiants d'histoire à cette période. Et puis il y a un autre aspect qui m'a beaucoup intéressé, c'est le problème non pas militaire de la guerre 14-18 ou 39-45, mais les aspects beaucoup plus sociaux, c'est-à-dire s'intéresser à la guerre, non pas par les exploits qui nous sont racontés, ou par les faits d'armes qui glorifient tel ou tel, mais par les conséquences à la fois sociales, politiques et humaines. Et s'intéresser à la guerre par les victimes, c'est beaucoup plus intéressant, me semble-t-il, que par les héros supposés des champs de bataille.
Quelle a été l'importance de la résistance à Saint-Henri?
Alors, d'abord, l'occupation à Saint-Afrique n'a pas le même aspect que dans des régions de grands combats que furent l'Alsace et la Lorraine ou le nord de la France ou la région parisienne. À Saint-Afrique, la ville était occupée par des unités allemandes, je dirais de deuxième catégorie. C'était d'ailleurs majoritairement, ce n'était pas des Allemands. C'était des gens venant de régions d'Europe centrale occupées par les Allemands, ce qu'on appelait les Vlassov. Ils étaient donc non allemands, mais liés à l'Allemagne. Il y avait un gros hôpital militaire allemand à Saint-Gabriel, mais la ville était occupée, comme l'était le département. Et la résistance ici à Saint-Afrique a été une résistance plutôt tardive. Autrement dit, qui commence en 1943 essentiellement. C'est une résistance politique qui est organisée par des notables, notamment par un directeur des caves de Roquefort, Fréchet, qui, avec d'autres notables, a contribué à la naissance de l'armée secrète et d'un mouvement que l'on appelle combat. Et l'autre aspect et qu'un maquis s'est constitué, mais les maquis sont tardifs. Donc la résistance armée, elle est tardive. Elle ne date que de la fin 43, au début 44. Et elle est représentée par le maquis Paul Clay, qui est un des maquis de l'Aveyron. Donc c'est une résistance politique d'abord, les tardives ensuite, et militaire dans le mois d'août, juillet et août 44. Mais il y a des victimes, et notamment Gantou, qui a été arrêté en août 44, torturé et assassiné par les Allemands de passage. Et il y a ceux qui sont morts au combat de la Pesade le 22 août 44.
En ce qui concerne l'actualité, que pensez-vous du massacre en Syrie?
Rien de bon, ça va de soi. C'est l'exemple même des guerres, il faut bien parler d'un état de guerre, qui sont parmi les plus terribles. Parce que je ne dis pas qu'il y a une hiérarchie dans l'horreur, mais dans un état de guerre, ce qui est guerre civile est tout à fait effroyable. Vous avez entendu parler de la guerre d'Espagne, pour avoir une référence très forte. Cette guerre, comme toute guerre civile, on a, nous, Européens sans doute, et moi en particulier, du mal à comprendre parfois les tenants et les aboutissants. Bien sûr, on condamne un gouvernement qui massacre ses ressortissants. Bon. Et quel que soit le moyen, n'est pas une question d'armes. Un gouvernement qui massacre son opposition et des civils, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc on ne l'accepte pas. Mais en même temps, derrière toute guerre civile, surtout dans le Proche-Orient, avec des enjeux de territoire, des enjeux que nous n'avons pas toujours bien, dont nous n'avons pas toujours une bonne perception, des enjeux religieux, avec des enjeux économiques, avec la géopolitique, c'est-à-dire le rapport de force avec les pays voisins, on a une certaine crainte de voir une guerre civile qui dégénère en guerre de zone, donc où d'autres pays viendraient à intervenir. Et ça, c'est une inquiétude qu'on peut avoir. Et puis, dernier point, c'est qu'est-ce que cette opposition ? Nous, on a une vision, parce que nous avons une culture démocratique. Dans une guerre civile, il y a les bons et il y a les méchants. C'est un peu manichéen, mais c'est un petit peu ça. Donc, si on est démocrate et que l'on soit dans l'opposition à un dictateur, on préfère soutenir les démocrates contre la dictature. Et on ne comprend pas toujours quelle est cette opposition à Bachar el-Assad, quelles sont ses composantes, sinon qu'on ne peut pas accepter que des civils, des femmes, des enfants soient massacrés. Autrement dit, on est bien dans une inquiétude générale et il vaut mieux la paix que de voir des civils massacrés.
Pensez-vous que c'est une bonne idée si François Hollande et Barack Obama interviennent pour aider les Syriens ?
Voilà. Ça découle un petit peu de l'analyse que l'on fait de cette guerre civile. Plus que d'aider... ce que vous dites, ça veut dire que Barack Obama et Hollande, la France, viendraient en aide à l'opposition contre le gouvernement de la Syrie. En fait, je crois que la démarche qui consiste à ne pas choisir un camp, mais à utiliser la capacité de pression de l'ONU ou de grands pays démocratiques pour mettre un terme au massacre est une excellente démarche. Que tous les pays importants fassent pression sur le gouvernement de la Syrie et lui imposent, s'il le faut, une solution politique, donc pacifique, est bien sûr une bonne chose. Et on souhaite même que ça réussisse. Ça mettra un terme à bien des malheurs si ça devait durer encore très longtemps.
À votre avis, certaines guerres sont-elles nécessaires ?
Ah. La guerre, c'est le dernier recours, souvent dans une situation de conflit, de désaccord. Et on fait parler les armes quand la diplomatie et quand la négociation a échoué. Moi, je crois qu'il y a des guerres internationales, des guerres de rivalité, des guerres de conquête, des guerres coloniales qui sont marquées, évidemment, par des causes peu défendables. Mais il faut aussi, malgré tout, pour des démocraties, ne pas rejeter totalement le recours à la guerre quand les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs humaines, humanistes, les valeurs de paix, les valeurs de progrès sont menacées par des idéologies qui peuvent les mettre en cause. Comment voulez-vous ne pas accepter l'idée de guerre quand on est résistant contre l'hitlérisme, contre le nazisme ? Il y a un moment où c'est le seul recours, une mauvaise solution, mais quand c'est la seule, il faut bien, hélas, que les démocrates acceptent cela. Et que les démocrates et les patriotes, c'est pas vouloir détruire l'autre, c'est pas vouloir imposer une supériorité, c'est simplement défendre des valeurs qui sont des valeurs humaines, des valeurs de démocratie, des valeurs de justice.
Merci d'être venu et de nous avoir consacré ce temps.
Merci Monsieur Moisé. Mélina vient nous parler des conflits de ces 30 dernières années.
Bonjour. 55 conflits armés ont éclaté en 30 ans. Dans les années 1980-90, il y en a eu 29, principalement en Amérique du Sud et au sud-ouest de l'Asie. Au début du XXIe siècle, ils se sont dispersés dans le monde entier. La région la plus instable est le Moyen-Orient. C'est Israël qui a généré le plus de conflits. Il est difficile de déterminer les raisons de guerre car il y a beaucoup de causes différentes. La raison la plus importante est la volonté d'agrandir les limites d'un pays. D'autres sont dues au désir de contrôler les ressources minières. Aujourd'hui, 10% des guerres impliquent plusieurs États entre eux. Ce sont les pays développés qui y participent. Dans les pays pauvres, on a le plus souvent affaire à des guerres civiles, ce qui les appauvrit, les affaiblit et qui augmente leur risque de se faire attaquer par un autre pays. Le nombre de conflits de ce genre a cependant diminué depuis la fin de la guerre froide. Cela s'explique par de nombreux facteurs, fin de la décolonisation, développement des pays, etc. Aujourd'hui, les grands foyers de tension restent le Proche-Orient avec le conflit israélo-palestinien et la guerre civile en Syrie. Certains pays d'Afrique sont encore très instables. Beaucoup de travail pour l'ONU qui essaye tant bien que mal d'encourager la paix.
Dans notre collège, il y a aussi plein de conflits.
C'est la guerre sur les ondes au lycée Jean Jaurès.
Arrêtez de bavarder ! Dans 5 minutes, je veux vos copies imprimées.
Oh mais c'est pas vrai, il a encore planté.
C'est fini ! Rendez-moi vos travaux ou c'est un zéro !
Et voilà, encore un zéro. Allô ? Quoi ?
Allô ? Steve ? T'as quand même pas oublié quand tu devais aller à la disco ? Ça fait 5 minutes que je t'attends devant.
Non mais c'est bon avec ta visco là ! On fait toujours ce que tu veux ! T'es égoïste, débrouille-toi toute seule ! Tu me saoules !
Eh oh ! Le portable là ! Mais tu sais bien que c'est interdit ! Allez, donne-le-moi là, t'iras le chercher chez le proviseur.
J'en ai marre ! C'est toujours la même chose. Vous, les pions, vous servez à rien, à part à nous crier dessus, confisquer nos portables et faire l'appel. Vous comprenez jamais rien.
Allez, un petit café bien serré. Mais ça marche pas, là. Ça marche pas, cette machine. Oh, c'est toujours pareil. Mais tiens, prends ça. Allez, un bout de café, là, je suis pressé. Ah, non, vraiment, elle marche pas. Et voilà, j'ai tout cassé.
Oh, c'est pas bon. Ah bon, il manquait plus que ça. Ce matin, les élèves. Et maintenant, la machine à café fait des siennes.
Eh oui, c'est de bonne guerre. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, faites de l'amour, pas la guerre.
Bon, je vous propose qu'on retourne en récré.
Alors, raconte-nous ton dernier conflit.
Bah, ça fait longtemps, je me suis embrouillé avec un mec. Maintenant, c'était hier soir, je lui ai mis une patate. Après, il voulait me taper, mais après, j'ai réglé le problème. Et maintenant, on se parle plus, voilà.
Avec une amie. On s'est disputé pour un secret.
Ben pareil, c'était une histoire, un secret. On s'est pratiquement tout disputé pour un seul truc, un seul secret d'une amie. Voilà.
Ah si, avec lui là, le mec qui tient le papier, qui pose les questions. Parce qu'il m'avait traité de noir. Qui fait pitcher avec son petit papier là.
La dernière dispute ? C'était ce matin peut-être alors, mais sans que ce soit un conflit. Je me suis fâchée avec une classe de quatrième avec qui j'avais déjà donné 3 fois les consignes et qui me demandait encore les consignes à répéter. Donc j'ai élevé la voix, mais enfin, je ne considère pas ça comme un conflit.
Il faudrait dire que j'en ai pas beaucoup parce que je n'aime pas du tout les conflits. Donc j'essaye toujours d'apaiser. plutôt que de rentrer en conflit. Donc là, vous me prenez de court.
Avec mon frère. Parce qu'il il avait mis... Il voulait pas changer de chaîne. La télé.
J'ai pu avoir un conflit avec une maman, par exemple, d'un élève. Mais voilà, c'est... On ne peut pas, vu que ça reste dans le cadre du travail, on ne peut pas rentrer directement, c'est-à-dire monter la voix ou tout ça. On est obligé de prendre sur nous, de temporiser. Par moments, ça monte, mais il faut voilà, remettre à plat. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi, parce qu'après, ça rentre dans l'ordre du secret professionnel et je ne peux pas aller plus loin.
Avec les élèves, j'oublie vite, en fait. Et quand je rentre chez moi, j'évacue tout et après, j'oublie. Avec mon fils, parce qu'il ne voulait pas aller à la douche.
Mon dernier conflit en classe, justement, avec les troisièmes. J'ai dû aborder la notion de respect et du vouvoiement et certains n'étaient pas d'accord avec le fait de tutoyer ou vouvoyer les professeurs.
Les images de guerre, les images de conflit, on les voit surtout à la télé. On accueille Julien pour nous en parler.
Quand je regarde la télé, avec mes parents, on regarde les infos et je leur demande des explications sur ce qui se passe, pourquoi ils font la guerre. Une fois, à la télé, sur A3, dans le 19-20, il y avait un reportage sur la guerre en Afrique. On voyait les journalistes qui filmaient en plein milieu des coups de feu. Heureusement, ils avaient des gilets pare-balles. J'ai eu peur pour eux, car ils pouvaient se faire tuer à tout moment. J'ai demandé à mes parents pourquoi ils faisaient la guerre. Mes parents m'ont expliqué, mais je ne me souviens plus de ce qu'ils m'ont dit. Une autre fois, je m'en rappelle, c'était toujours en Afrique. Mes parents m'ont expliqué que c'était les citoyens qui se rebellaient contre la République. Ils voulaient tuer le président. Je trouve qu'ils meurent pour rien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas quoi faire pour les aider. Alors, je continue à regarder la télé et c'est tout.
Merci Julien. Colline et Léa vivent des conflits importants qu'on n'a pas encore abordés.
La lutte des sexes. Le machisme, c'est quelque chose que j'accepte pas. Soumettre quelqu'un parce qu'il est du sexe faible, soi-disant inférieur, c'est totalement con et ça m'indigne. Et pourtant, le machisme est partout, tout le temps. Par exemple, l'autre jour, on était en cours d'art plastique. Un groupe devait déplacer les tables et un autre devait aménager une ville en papier. Moi et quelques filles, on a commencé à aller vers les tables. Et là, la réaction est tombée. Non les filles, laisse tomber, laissez faire les mecs. J'ai cru qu'ils plaisantaient, mais non. En plus, il y a des filles de la classe qui ont trois fois plus de muscles que certains gars. Donc la remarque, vraiment pas justifiée. Mais t'es con ou tu fais exprès ? J'étais énervée. Avant, je me disais que le machisme, c'était un truc de vieux. Maintenant, je me dis que c'est contagieux. Et je m'entends lui répondre à ce jeune macho. Franchement, t'abuses. Je vais passer pour une vieille chieuse, mais tu fais pitié avec tes remarques. Tout ça pour dire que, les filles et les mecs, il va falloir se bouger pour changer les mentalités. Alors moi, ce sera mon combat, ma guerre. Et même si c'est rien, j'en serai fière.
Depuis 2 ans et demi, j'habite dans l'Aveyron. Avant ça, j'ai habité à Marseille pendant 2 ans. Parfois, j'allais voir mes amis dans certains quartiers de Marseille. Dans certaines petites rues le soir, on peut croiser des personnes vraiment bizarres. Comme une fois, j'étais avec une amie dans une petite rue et une personne a demandé de lui acheter de la drogue. Mon amie lui a dit non et il nous a menacé au couteau. Elle lui a mis un coup de pied et on est parti en courant. Je n'ai jamais osé le dire à mes parents. Depuis que je suis à la campagne, dans un petit village où il n'y a que des vieux, je m'y sens plus en sécurité. Dans une grande ville comme Marseille, dans certains quartiers, juste pour un mot, ça peut partir en meurtre. Autant en ville, j'avais un peu peur d'y habiter, qu'à la cambrousse, je m'y sens vraiment plus tranquille. Pourtant, j'aime bien être en ville. Je pensais que la France était un pays libre, contrairement aux pays en guerre. En fait, pas du tout. On ne peut même pas se promener tranquille.
Les pays en guerre, parlons-en. Marius nous propose une synthèse sur l'intervention militaire au Mali.
L'affrontement de l'armée française avec des Touaregs à la bataille de Tite en mai 1902 est une étape majeure de la soumission des Touaregs. Au début du XXe siècle, les Touaregs sont le dernier peuple d'Afrique de l'Ouest soumis par les Français. Leurs terres sont réparties entre le Niger, le Mali, l'Algérie et la Libye. Ces pays ignorent en général leur minorité Touareg, récalcitrantes, peuple nomade. Ils vivent dans le désert avec leurs chameaux et leurs chèvres. Les Touaregs résident dans la partie la plus aride et la moins peuplée du Mali. Ils se révoltent assez souvent pour protester contre l'oubli ou l'indifférence du pouvoir central. Mais ces dernières décennies, la sécheresse touche les Touaregs qui peinent à nourrir des troupeaux importants. Ces grandes sécheresses obligent les Touaregs de changer de région. Ils réclament la région de l'Azawad, un territoire situé au nord du Mali. Une revendication qui sera rejetée. En 1988, un groupe de Touaregs crée le MPLA, Mouvement Populaire de Libération de l'Azawad. Un mouvement qui consiste à obtenir l'indépendance de l'Azawad. Alors, au Mali, un combat oppose l'armée malienne aux rebelles Touaregs du MPLA qui se sont révoltés. En juin 2012, les islamistes chassent les Touaregs des villes qu'ils avaient prises et imposent la charia. Face à cette violence, le gouvernement malien demande alors à l'ONU une aide internationale. Le président français accepte la requête du gouvernement malien et envoie plus de 4000 militaires de l'armée française au Mali pour, je cite, « détruire les terroristes ». Cette opération se nommera Serval et coûtera à la France 400 millions d'euros. Le but de l'opération Serval était d'empêcher les groupes islamistes d'entrer dans la capitale, Bamako, en tuant les terroristes au cours de combats ou les poussant à se replier dans le désert. L'opération Serval est encore actuelle de nos jours. Nous comptons aujourd'hui 7 morts français et plus de 200 blessés.
Imanake choko choko imanata yoro yoro imanabo yoro yoro itifoji adamadengo imanake choko choko imanata yoro yoro imanabo yoro yoro itifoji adamadengo. Mon ami, le temps est venu de t'écrire, je pense, malgré la distance qui nous sépare, toi en Afrique, moi en France. En ces circonstances où ton continent continue de saigner, souffrir de mille maux, mais en silence, bien loin de la pseudo-science du blanc et des mots qui polluent ces discours insouciants de bonne conscience. Oui, entre nos deux pays, les rapports ne sont pas simples, parce que chaque parole de paix écrite ou prononcée se heurte au poids d'un passé que ni toi ni moi ne pouvons effacer. Et puis que dire, que faire face aux empires d'aujourd'hui et d'hier qui fraternisent avec tes chefs, qui leur affûtent les crocs afin qu'ensemble ils vampirisent ta terre truffée d'intérêts étrangers et étouffée par les fléaux qui y prolifèrent. Ni toi ni moi démunis ne sommes de taille à livrer bataille face à ces faits et forces multiples qui chaque jour s'affairent à façonner le divorce entre nos peuples. Renforcer des fossés dominants, dominez-moi, c'est simplement de ma homme qu'à toi je tiens à m'adresser. Car nos âmes sont semblables, regarde l'essentiel, parce qu'au fond, il y a l'homme, l'être que tous nous sommes. Imanake, choko, choko, imanata, yoro, yoro, imanabo, yoro, yoro, itifoji, adamadengo. Imanake, choko, choko, imanata, yoro, yoro, imanabo, yoro, yoro, itifoji, adamadengo. Mais ses disciples qui absorbent les peuples et disciples restent ainsi. Ils disparaissent comme des arbustes déracinés par un arbre gigantesque qui prétendrait étendre sur la forêt tout entière ses branches et y dispenser ses fruits dans lesquels pourtant logent les vers. Je préfère quant à moi me tourner vers ta terre et faire l'éloge de valeurs humaines inestimables nées et élevées au sein des entrailles du berceau de l'humanité. Car elles sont remparts contre l'emprise de cet empire. Oui, tous les appétits, les abus des tout babous ne viendront jamais à bout d'une Afrique oubliée, délaissée, mais forte car forgée à travers l'histoire, par la faim, la souffrance et le fer. Et qui sait si bien cicatriser de ses blessures. Voilà mon ami ce que je tenais à te dire. Imanake, choko, choko, imanata, yoro, yoro, imanabo, yoro, yoro, itifoji, adamadengo. Imanake, choko, choko, imanata, yoro, yoro, imanabo, yoro, yoro, itifoji, adamadengo. Tonya kumale yoye, adamadengo. Tonya Choco choco imanata yorro yorro imanabo yorro yorro ite foye adamadengo imanake choco choco imanata yorro yorro imanabo yorro yorro ite foye adamadengo.
C'était Adama Denko de Kwal et Adama Yalomba. Maintenant, faisons un point presse sur l'actualité et les guerres avec Emma.
Dossier syrien, François Hollande contre-attaque. Vivement critiqué pour son absence lors des négociations entre la Russie et les États-Unis, le président français s'est expliqué dans un discours devant l'Organisation des Nations Unies ce mardi. Pour lui, c'est l'ONU qui doit agir, prendre des initiatives. Le pire risque, c'est l'inaction, a-t-il déclaré avant de conclure clairement. La France prend toujours et sur tous les sujets ses responsabilités, peut-on lire dans Le Monde. Dans le monde diplomatique, projet Marzouki de Cour constitutionnelle internationale. Cette idée est de Monsef Marzouki, actuel président de la République tunisienne face aux impasses du droit international. Bien que la démocratie soit proclamée universelle, il n'existe pas de moyen de la faire appliquer. Pour cela, un mécanisme judiciaire permettant de contrôler les dispositions et pratiques constitutionnelles est nécessaire. Une situation chaotique en Guinée, d'après Libération. Tension extrême à 3 jours des toutes premières élections législatives démocratiques en Guinée. Les partisans du pouvoir et de l'opposition s'affrontent. Depuis une semaine, des violences ont fait plusieurs blessés dans les rues de la capitale. De plus, les services français et américains craignent un possible coup d'État par un milliardaire franco-israélien. Un cocktail explosif. La Turquie, étape forcée des chrétiens de Syrie persécutés, nous explique Le Figaro. Des lieux de culte brûlés, des chrétiens kidnappés et torturés. De Bagdad au Caire, en passant par Damas, l'avenir des chrétiens est en danger. Les Syriaques sont durement touchés. 300 chrétiens du nord de la Syrie se trouvent actuellement dans les régions turques frontalières. La majorité quitte la Syrie à cause des violences des rebelles fondamentalistes. Le roulement est permanent. Les nouveaux arrivants remplacent ceux qui partent pour l'Europe clandestine.
Au lycée, on est tous égarés. Parce que c'est la lutte toute l'année.
S'il y avait la guerre, je ne pourrais pas manger des crêpes au Nutella.
Je ne pourrais pas me laver les cheveux.
Je ne pourrais pas dormir tranquillement.
S'il y avait la guerre, je ne pourrais pas jouer aux jeux vidéo.
Je ne pourrais pas m'habiller en couleur.
Je ne pourrais pas dire ce que je veux.
S'il y avait la guerre, je ne pourrais pas avoir de chat ni de poisson rouge.
Je ne pourrais pas me lisser les cheveux.
Oh my god!
Je ne pourrais pas écouter Martin Garrix.
La violence dans les familles est très fréquente. Quand on le vit comme spectateur, ça fait peur. Je vais vous en raconter une. C'était il y a 4 ans. J'étais en vacances dans un camping. Il devait être 23h30. En face de notre emplacement se tenait une famille avec un garçon qui devait avoir 12 ans. J'ai entendu une bagarre. Alors les voisins, ils sont partis pour frapper à leur porte pour leur demander de faire un peu moins de bruit, car des personnes dormaient. Ils leur ont dit plusieurs fois. Pour moi qui entendais la scène, le pire c'était le garçon qui se tenait à côté de la porte et qui avait peur. J'étais triste pour lui. Puis au bout d'un moment, le gérant du camping est venu pour calmer le jeu. Sans succès. Alors ils ont appelé la police. Mais moi je suis partie me coucher avec la peur que ça se termine mal. Et surtout la peur pour le garçon. Moi je ne pourrais pas participer à une violente dispute. Si ça arrivait devant moi, je partirais. Je ne peux pas voir ça. Un texte de Baptiste Cossat.
Merci Lisa et Baptiste. Donc dans notre quotidien, on voit et on parle beaucoup de combats en virtuel et en réel. On vous propose un échange d'idées.
Les jeux vidéo sont souvent violents. Certains y jouent toute la journée. On les appelle les geeks. Les gens disent souvent que les geeks sont asociaux. Ce sont des personnes qui n'ont pas d'hygiène, qui ne pensent qu'à jouer aux jeux vidéo avec des inconnus et qui ne dorment jamais. Les geeks puent, ils ne changent jamais d'habits et ils ne parlent à personne. Mais on peut être geek sans être comme ça. Moi, j'ai 14 ans, je suis geek, pourtant je me lave, j'ai des amis et je pratique des activités. La communauté geek s'agrandit de plus en plus et j'en fais partie. Comment je fais, moi, pour ne pas être complètement addict? Chaque fois que je joue à l'ordinateur, je me connecte sur Skype. Pour ceux qui ne connaissent pas Skype, c'est un programme pour pouvoir parler à ses potes tout en jouant. Skype, ça me permet d'avoir un lien même quand je joue. Pour ne pas être addict, je me fixe des horaires pour ne pas en faire trop. Être geek, c'est aussi l'assumer auprès de son entourage. Le jour où j'ai dit à ma famille que j'étais geek, ils m'ont exclu comme si j'étais sauvage ou aliénée. Après une semaine d'engueulade, ma famille a fini par accepter ce que j'étais et tout s'est arrangé. Comme quoi, être geek, c'est pas forcément être addict.
Je joue sur Call of Duty Black Ops 2 et MW3. Ce sont des jeux de guerre que j'ai découvert grâce à mon copain et depuis j'adore ça. Ça me défoule après une dure journée. De plus en plus de filles jouent sur ces jeux-là. Après, il y a toutes sortes de filles. Il y a les discrètes qui ne prennent pas forcément un pseudo de fille. Et la plupart de ces filles-là sont assez fortes quand elles jouent. Et puis il y a celles qui font tout pour se faire remarquer. C'est-à-dire qu'elles donnent direct leur Facebook, leur prénom et tout ça. Il m'est arrivé, un jour en jouant, de recevoir un message. « T'es une fille ou un gars ?» J'ai répondu. « Je suis une fille. »« Ah ouais ? Et t'as quel âge ?»« Ça te regarde pas, je te connais pas. » Mais quand même, tu veux pas sortir avec moi? Non mais non, en plus j'ai un copain. Ah ok. Et il s'appelle comment? Il a quel âge? Non mais pour qui tu te prends, ça te regarde pas? Arrête de me saouler. J'ai coupé court à la conversation, et heureusement. Depuis, il ne m'a plus envoyé de message. C'est pour des trucs comme ça que c'est dur de jouer à des jeux de guerre quand on est une fille. Il y a des mecs qui jouent à ces jeux-là, car ils aiment vraiment ça. Et d'autres qui sont là que pour la drague. Et pour se sentir en sécurité, vaut mieux garder son identité secrète.
J'ai vécu un conflit. Un jour, à Saint-Aff, on jouait au handball à une autre équipe. Dans les tribunes, un ancien joueur de hand commence à nous insulter. Je le connaissais vaguement. En entendant les insultes, l'entraîneur a pris un temps mort. Je décide d'aller parler aux arbitres. Je leur ai dit « Le mec là-bas, dans les tribunes, habillé en noir et jaune, nous insulte depuis le début du match. Je déteste les gens qui insultent mon équipe de hand. » Les arbitres ont sorti l'ancien joueur des tribunes. Quelqu'un du public a appelé la police. Après, le gars est revenu avec plusieurs de ses amis. Mais la police les a virés. Une semaine plus tard, je me promenais dans la rue avec ma tante et ma petite cousine. Je croise l'ancien joueur. Il m'insulte, et moi je lui réponds à ses insultes. Je lui ai répondu parce que j'étais en colère, et que j'avais pas envie de le revoir. Après, il commence à me pousser, et puis moi je l'ai repoussé. Ça s'est arrêté là parce que ma tante a appelé la police. Ils sont venus le chercher. Depuis ce jour-là, on ne s'entend plus la parole. Mais plus de rivalité physique. Pour moi, une équipe de hand, c'est d'être solidaire avec les autres joueurs. J'aime pas la violence verbale et la violence physique.
Tous les soirs, en rentrant des cours, j'aime bien jouer à la play. J'aime bien en particulier jouer à des jeux comme Call of Duty. Le but du jeu est d'anéantir son adversaire. L'objectif est de tuer l'autre plus de fois que lui, il nous tue. Le contexte du jeu, son graphisme, son réalisme me plaît. Plein de fois, ça me fait plaisir d'imaginer que la tête de mon adversaire est celle d'une personne que j'ai croisée dans la journée. Personne qui me gêne, que je n'ai pas envie de voir. La tuer avec une mitraillette m'amuse et me détend. Certains de mes copains ne font plus la différence entre le jeu et la réalité. Heureusement, il y a l'école pour leur faire faire une pause. Moi, je sais faire la différence. Dans la vraie guerre, il y a de vraies morts. Dans la guerre virtuelle, il n'y a pas de morts. Mais il peut y avoir de vraies conséquences sur votre cerveau, les gars. Alors faites attention à vous quand vous jouez à la play et posez-vous la question. Faites-vous bien la différence ?
La guerre réelle, la guerre historique.
Maquisard,
les chiens des patriotes,
la guerre nucléaire,
l'Irakien, le maquis des patriotes,
1789, les nids, les armes,
le rouge, le noir,
la révolution,
14-18,
39-45,
les tranchées,
le blocos,
les tanks,
les obus,
la Syrie,
le tireur d'élite,
le GIGN,
les armes de destruction massive,
le terrorisme,
les camps de concentration,
les génocides.
Et il y a la guerre virtuelle.
Les FPS.
Le Fight.
Rambo.
Chuck Norris.
Warplay Gaming.
Otak.
Call of Duty.
Modern Warfare 3.
Black Ops 2.
League of Legends.
La Mêlée Générale.
Le Mastodon.
World of Warcraft.
Des mots de paix. L'ONU.
La Colombe.
La Branche d'Olivier.
Les Libertés.
Gagne.
Noël.
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Pâques.
Les Traités de Paix.
Le Blanc.
Les Musiques Pacifistes.
On préfère finir notre émission sur des mots de paix. Et sur le moment, et sur le mouvement pacifiste.
Ces mouvements pacifistes consistent à rechercher la paix entre les nations et à rejeter la guerre. Ils sont nés dans les contextes de révolution en France et ailleurs. Ils se sont développés surtout pendant les grandes guerres et pendant les conflits partout dans le monde. Ils ont été incarnés par des personnages célèbres comme Jean Jaurès, Gandhi, Albert Einstein. Il y a eu plusieurs grands événements dans les mouvements pacifistes. Jean Jaurès, qui s'est opposé au déclenchement de la Première Guerre mondiale. La marche du sel de Gandhi en Inde en 1930. Gandhi a parcouru près de 400 km pour dénoncer les colonies anglaises et obtenir l'indépendance de l'Inde. À chaque étape de sa marche, des centaines de personnes s'ajoutent au cortège. De nos jours, les pacifistes organisent des festivals, des rassemblements, des manifestations, des défilés dans la rue et des conférences de presse pour faire entendre leur voix, leurs idées et les faire appliquer. Il existe d'ailleurs un prix Nobel de la paix qui est décerné chaque année à Stockholm. Il récompense une personne ou une organisation qui a œuvré pour la paix dans le monde. Beaucoup ont reçu ce prix. Par exemple, Nelson Mandela, homme politique sud-africain en 1993, le Comité international de la Croix-Rouge en 1917, 1944, 1963, l'ONU en 2001 et bien d'autres. Pendant la guerre du Vietnam, un grand mouvement pacifiste est né, le mouvement hippie. Les personnes qui ont comme slogan « Faites l'amour, pas la guerre », le mouvement hippie est né lorsque des groupes de jeunes se sont mobilisés pour réclamer la fin de la guerre au Vietnam. Cherchant par tous les moyens à se démarquer de la société et de ses conventions, les hippies prônaient l'amour libre, rejetaient les signes distinctifs de la société de consommation. Le mouvement hippie a connu son apogée en 68. Il avait pour capitale San Francisco. Londres et New York ont également connu de grands rassemblements hippies. En 69, Hyde Park a vibré lors du concert gratuit des Rolling Stones. Le concert Woodstock en 69 est considéré comme l'un des derniers grands événements hippies. Je vous propose d'écouter John Lennon, chanson emblématique du mouvement pacifiste.
Everybody come down.
quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire?
Réalisée à 30 en 2 jours, une émission de 2 heures en direct, on peut dire que le défi est relevé.
En remerciant particulièrement
le Collège Jean Jaurès,
Monsieur Balm pour sa parole avisée,
Henri Moisette, professeur d'histoire et historien spécialiste des deux dernières guerres,
Audrey Barat, journaliste à Radio Centrafrique,
Patricia Boutonnet, documentaliste et animatrice du club journal du collège,
et bien sûr Loïc Frénéa et Capucine Caro, de l'association Wakadi.
Et surtout Madame Nègre, notre professeure de français, car sans elle, ce projet n'aurait jamais pu se faire.
Ah, et un conseil, faites l'amour, pas la guerre.
Les capotes, c'est moins cher que les revolvers.
À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Pas de soucis, que t'es pas en conflit, connecte-toi avec Wakadi. Et surtout, si t'as quelque chose à dire.